Parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, la Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de la Pause Santé. Aujourd'hui, nous allons parler audition et plus spécifiquement surdité des personnes âgées, ses conséquences et aussi le rôle des auxiliaires de vie auprès des personnes concernées. Pour parler de toutes ces questions, je suis bien sûr accompagnée d'un expert dans le domaine. Bonjour docteur.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous écoutent ?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Alain Sastre. J'ai été ORL et j'ai exercé dans la ville de Rouen pendant plus de 28 ans en tant qu'attaché au CHU, mais également en profession libérale, avec une expérience assez importante dans la surdité puisque j'étais un peu spécialisé dans la chirurgie des oreilles. Je suis à la retraite depuis quand même 7 ans.
Ben merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vais enchaîner tout de suite sur la première question. Quand on parle de surdité, de quoi on parle exactement ? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de surdité, par exemple ?
Et bien sûr, et en plus, la surdité n'est pas vécue de la même façon par ceux qui l'ont et ceux qui ont subi ses conséquences, ses interlocuteurs. Dans la surdité, normalement, peut être légère lorsqu'elle est inférieure à 30 décibels. 30 décibels, c'est la voix chuchotée basse. Elle peut être importante ou alors là, on commence à avoir besoin d'une aide auditive ou alors sévère. Et là, c'est indispensable. Profonde, c'est souvent le cas de surdité congénitale. La surdité, c'est la mauvaise perception du bruit, mais ça peut être aussi une mauvaise compréhension. Et dans le cas de la surdité de la personne âgée, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, souvent ça a un petit peu intriqué.
C'est-à-dire que c'est différent de mal entendre et mal comprendre, mais en fait l'un découle de l'autre.
Pas forcément, vous avez des gens qui vont avoir des problèmes pour entendre et en fait, des gens une fois appareillés qui vont trouver que les appareils ne marchent pas parce qu'ils n'entendent rien comme ils disent, mais en fait, ils entendent plus fort, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que la discrimination des sons s'est altérée avec l'âge, ce qu'on appelle la presbyacousie. Et ça s'accompagne souvent d'une discrimination des sons perturbés et donc de problèmes de compréhension.
D'accord, donc c'est-à-dire que si une personne a été sourde, on va dire, ou en tout cas avec un degré de surdité pendant longtemps, même si elle entend mieux après, il va y avoir un travail pour s'adapter.
Tout à fait, d'autant que le problème, il est un petit peu là aussi, c'est que quelqu'un qui a été malentendant pendant un certain temps va avoir encore plus de mal à s'adapter à l'aide auditive, parce qu'il faut mieux parler d'aide auditive que d'appareil auditif, parce que c'est comme quelqu'un qui serait resté dans le noir longtemps, quand vous le mettez en pleine lumière, il supporte pas bien. Et les gens qui sont restés un peu dans le silence relatif pendant longtemps n'aiment pas toujours avoir du bruit important dans leurs oreilles. C'est le problème du dépistage qui doit être précoce.
Bon, on reparlera du coup de tout ça, puis le rôle de l'auxiliaire de vie aussi dans ce travail-là.
C'est très important, oui.
Ouais, on va en reparler tout à l'heure. Moi, j'avais une question sur, avec l'âge, l'audition baisse, c'est un fait. À partir de quel âge on est censé être plus vigilant sur ces visites chez l'ORL, etc.
Alors ça, c'est en principe progressif, mais évidemment, il y a certains facteurs que l'auxiliaire de vie n'est pas censé connaître, notamment des facteurs vasculaires, métaboliques, qui peuvent accentuer cette perte d'audition. Donc, dans la mesure où les gens commencent à faire répéter, on peut supposer qu'il y a une baisse d'audition, et là, il y a la nécessité d'une consultation auprès d'un ORL, ne serait-ce que pour faire un premier examen d'audition qui va servir de référence pour comparer avec une évolution ultérieure. Ça va pas forcément déboucher sur la prescription d'un appareil auditif, mais ça va préciser le niveau actuel et on pourra se référer à ce niveau-là pour la suite des événements.
Vous dites qu'il y a des facteurs qu'on ne connaît pas forcément, mais justement, qu'est-ce qui fait qu'avec l'âge, l'audition baisse ? Quels sont les facteurs qui rentrent
Alors,
en compte ?
Alors, le principal facteur, c'est le facteur vasculaire, c'est-à-dire que vous avez les problèmes d'artériosclérose et les problèmes d'hypertension, vous avez des problèmes métaboliques avec, par exemple, le diabète, l'hypercholestérolémie, les triglycérides augmentés, tout ça, ça accentue la mauvaise oxygénation des cellules de l'oreille interne, car l'oreille interne n'était vascularisée que par une seule artère. Dès qu'il y a un problème sur ces échanges gazeux au niveau de l'oreille interne, il y a une baisse d'audition. Il faut savoir que, par exemple, le bébé dans le ventre de sa mère entend déjà parfaitement bien. Et à partir de la naissance, l'audition commence à baisser. Alors, c'est très caricatural, mais c'est vrai. On sait que le fœtus entend à l'intérieur de l'utérus de sa maman. Mais on sait aussi que ça va commencer à baisser. Certaines personnes n'ont quasiment pas de baisse avec des bons antécédents vasculaires métaboliques. Certains autres, notamment s'il y a des problèmes familiaux aussi, ça peut jouer, auront une baisse progressive et qui nécessitera peut-être qu'un appareillage. Bon, je ne parle pas évidemment de toutes les agressions, notamment par le bruit,
oui,
qui sont
sûr.
Malheureusement plus en plus fréquentes, ce qui est aussi accentué.
Ça veut dire que ce n'est pas un mythe, la musique qu'on fait écouter dans le ventre de sa maman?
Oui, et c'est ce qui s'est fait pendant moi. Je sais pas si ça se fait toujours auprès de, lors des accouchements, mais on mettait de la musique et ça, il paraît que ça avait une bonne influence sur le, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas insisté à ça. Je peux pas vous dire.
Ok. En dehors du coup de, donc, des acouphènes, l'hypersensibilité à certains sons, vous en avez parlé, l'incapacité à suivre des conversations. Le fait de monter le son aussi, voilà, quand on regarde la télé, on écoute la radio, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme conséquence de la perte d'audition sur une personne âgée et sa santé?
La conséquence principale, c'est les troubles de caractère, parce que quelqu'un qui n'entend pas bien a deux façons de réagir. Soit il se bloque dans son silence, il se mure dans son isolement et veut surtout pas changer quoi que ce soit. Et donc c'est là, par exemple, on a des problèmes pour faire supporter un appareillage à quelqu'un d'âgé qui a attendu trop longtemps. Soit au contraire, il devient agressif parce que on le fait tout le temps répéter. Et ça peut même être vu chez des personnes plus jeunes. Moi, je me souviens pendant mon activité avoir un jour un enfant de 10 ans qui était traité pour trouble du comportement et en fait il n'entendait pas bien et comme il se faisait en guirlandais parce qu'il n'arrivait pas à répondre, il était devenu un petit peu à pousser des cris. Donc là, le caractère joue beaucoup.
Il me semble qu'on fait le lien aussi entre dépression, isolement, trouble de l'humeur et perte d'audition pour ces raisons-là.
Et voilà, c'est ça. Et c'est une raison pour laquelle il faut pas attendre trop, parce que la personne à qui on veut éventuellement prescrire un appareillage pour l'aider, elle a pas forcément envie d'être dérangée par des bruits tout le temps, par entendre des choses qu'elle a pas forcément envie d'entendre, même de la part de sa famille. J'ai déjà vu le cas où un monsieur à qui j'avais prescrit des appareils auditifs a été ramené par sa famille un mois après, parce qu'il se plaignait tous que depuis qu'il avait les appareils, il n'entendait plus rien. Et comme je pouvais pas lui parler tranquillement, ils étaient tous là autour de lui. Je l'ai emmené dans une autre pièce et il m'a dit « je veux pour les mettre, je les mets et puis je les allume pas, comme ça je suis bien tranquille ». Ben oui, mais ça peut arriver, j'ai vu le cas.
Dans ces cas-là, c'est un peu dur de dire ça à la famille, j'imagine.
Je vais vous dire, franchement, je n'ai rien dit. Alors j'ai dit « c'est arrangé ». Je lui ai dit, mais allumez-les de temps en temps quand même. Il m'a dit, je vais voir. Et puis, ils ont changé d'ORL, à mon avis. Ils ont dû penser que j'étais pas bon. Mais j'ai rien dit. Ben oui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il est pauvre.
Justement, ça, c'est vraiment des questions à propos.
C'est un échec quand on voit ça. C'est un échec parce qu'on aurait dû l'appareiller plus tôt. On aurait peut-être pu l'accompagner mieux. Et ça, c'est là où l'auxiliaire de vie qui est au contact des gens qui sont susceptibles d'avoir besoin d'un appareil a un rôle très important.
Ouais, donc du coup, le rôle principal, c'est vraiment réagir le plus tôt possible, informer la famille informer...
Oui, c'est indispensable. Et en fait, l'ORL, lui, quand il va voir les gens pour mesurer l'audition, comme on en parlait tout à l'heure, pour avoir un premier audiogramme de base, il va dire à un moment, normalement, c'est quand on arrive à peu près à 30 décibels de moyenne de perte selon les fréquences, parce que la presbyacousie est une perte qui est plus importante sur les aigus que sur les graves. Donc, lorsqu'on va mettre un appareil, ça va plus ou moins augmenter toutes les fréquences de la même façon. Et donc, ça peut créer des petites distorsions de son. C'est là où le travail du prothésiste auditif est indispensable. Et il est très important de passer par un prothésiste auditif pour qu'il puisse régler les fréquences et l'amplification du bruit. Et au départ, souvent, on ne met pas l'amplification qui sera la meilleure pour le patient. On met une amplification en dessous pour qu'il ait le temps de s'habituer.
Mais comment réagir alors si on a une personne qui a une perce auditive claire, mais qui refuse totalement soit de consulter, soit de se faire appareiller en sachant qu'il a une perte d'audition?
C'est pas toujours facile parce que s'il refuse totalement, il voudra jamais. Mais on peut quand même essayer de lui faire des démonstrations avec la télévision, par exemple, en montant le son. Mais c'est pas toujours très très facile parce que, par exemple, les gens qui ont des appareils auditifs se plaignent souvent lorsqu'ils regardent un film qu'ils entendent plus fort mais qu'ils ne comprennent pas bien parce que le film il a toujours une musique de fond. Alors nous, l'oreille humaine normale qui fonctionne normalement, elle a tendance à faire un peu le tri des sons et on entend moins le bruit de la musique. Donc, on comprend mieux les paroles. La personne malentendante, elle va être gênée par ce bruit de fond et donc va mal comprendre. Donc, elle va dire, ben, ça sert à rien, l'appareil, moi, j'entends plus fort, mais ça me casse les oreilles et puis je comprends pas. Mais souvent, ils disent pas, je comprends pas, ils disent, j'entends pas. Alors qu'en fait, ils entendent mieux, mais ils comprennent pas mieux. Et c'est le problème de certains qui ont un caractère un petit peu, dirais, nerveux ou impatient, c'est qu'ils vont pas avoir forcément le courage d'essayer de s'adapter à cet appareil. Et c'est là où il faut insister un petit peu, parce que plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Les gens vont s'y faire beaucoup plus facilement. Quand c'est trop tard, les gens s'y font pas vraiment, ils ont mal. Hein.
Vous parlez du courage qu'il faut que ces personnes-là aient envie et le courage de s'adapter, mais est-ce qu'il y a aussi des exercices, des méthodes à adopter avec une personne qui est en cours d'adaptation, en fait, à un appareil auditif?
Alors, non, pas vraiment, parce que, en fait, chaque oreille est un petit peu particulière, défend plus ou moins les sons, on peut pas toujours savoir à l'avance. Par contre, il y a un truc qui est souvent important et qu'on oublie, surtout à notre époque où c'est des bruits par tous les sens à toute vitesse, c'est qu'il est très important de décomposer et d'articuler. Les gens, souvent, lorsqu'il y a des bruits, notamment quand ils sont dans une réunion, un mariage, une fête de famille, un anniversaire, c'est là souvent où on sort les grands-parents pour les amener, mais ils entendent tout le monde parler en même temps, les enfants parlent à toute vitesse, n'articulent pas, et ils entendent quelque chose, mais ils comprennent pas, et ça, c'est un truc qu'on peut faire, il faut y penser, c'est de pas parler forcément. Quelqu'un qui n'a pas entendu, on lui dit la même phrase, mais en décomposant, en articulant bien, et souvent, il va avoir compris ce que là, lui, il avait dit, j'ai pas entendu. Mais il avait entendu du bruit, mais il n'a rien compris. Et c'est un truc qu'on oublie souvent, et les interlocuteurs de gens sourds devraient faire un petit peu plus attention à ça. Ça les aiderait, ça aide les gens, et ça participera à les convaincre de prêter leur appareil.
Donc ne pas crier, mais articuler.
Il faut articuler. Je dis souvent aux gens qui n'entendent pas, et qui, au lieu de dire « j'ai pas entendu » parce qu'ils ont l'impression d'être des handicapés, vous dites « j'ai entendu mais j'ai pas compris, articule ». À son interlocuteur, comme ça, il renverse la charge de la preuve.
Et écoutez, est-ce que vous avez d'autres conseils de ce type-là pour les auxiliaires de vie qui accompagnent des personnes récemment appareillées, par exemple, ou bien qui sont en cours du processus?
C'est déjà pas mal. Si elles arrivaient à faire ça, je pense que les gens seraient beaucoup plus motivés. Déjà, bon, quand elles se rendent compte que la personne âgée n'a pas entendu, essayer éventuellement de faire des tests avec la télévision, mettant plus ou moins fort pour leur montrer que ça pourrait être meilleur. Il y a aussi un autre truc, c'est quand on leur parle, c'est de leur demander d'arrêter le son, la télé, et aussitôt, ils vont comprendre beaucoup mieux parce que les sons ne se mélangeront pas. Nous, on fait notre oreille normale, elle trie. Je sais pas si vous avez essayé quand vous étiez jeune, moi je faisais ça, j'énervais les parents, puis j'enregistrais les conversations à table. C'est sympa.
Sauf alors non, je n'ai jamais fait ça.
Mais 9 fois sur 10, quand on écoute l'enregistrement, on n'entend que le bruit des assiettes, des couverts, des fourchettes, des couteaux. Alors que quand vous êtes à table, vous ne l'entendez pas parce que vous l'avez oublié. Alors ça, c'est un petit peu le rôle aussi de la partie centrale de l'audition, parce qu'il y a l'oreille, mais il y a aussi les centres auditifs qui participent beaucoup à ce fameux tri des sons. Et donc, si on parle à des gens pendant qu'il y a de la musique, pendant qu'il y a ou la télé, ils sont plus gênés, c'est sûr. Donc, ils leur demandaient de baisser le son au moins ou de l'arrêter, le temps de parler. Mais il faut que ces personnes-là soient motivées pour aller, enfin, les presbyacousies, les gens qui sont malentendants, soient motivés pour aller au moins faire un premier test. Souvent, le premier test, ils pensent qu'ils entendent très mal, puis l'ORL va leur dire, non, ça va, vous pouvez encore attendre parce que la perte d'audition n'est pas si importante pour être aidée par un appareil. C'est bien, ça veut dire qu'on a pris le problème tôt, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas mettre un appareil un jour. Et puis d'expliquer que c'est plus un problème de compréhension, de qui demande aux gens d'articuler et tout, et ça va leur recréer une envie de relation sociale, parce que c'est le but finalement, c'est ça. Et donc tant qu'ils ont cette envie-là, ils vont forcément supporter une aide auditive. Mais c'est, comme on dit, une aide auditive, c'est pas, on ne retrouve pas une oreille normale, c'est sûr. Il y a quand même une gêne, toujours. Mais au moins, on ne fait pas répéter comme avant.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations.
On a bien compris que avoir été clair, oui.
Pour que les personnes âgées se remettent en relation, soient moins isolées, etc., c'était important. La clé, quoi.
Mais honnêtement, quand c'est bien pris, bien expliqué, c'est rare qu'il y ait des cas de blocage complet. C'est rare. Et ça vaut vraiment le coup d'insister, de faire un effort. Parce qu'après, ils sont vraiment quand même beaucoup plus heureux et, j'allais dire, plus sociables pour tout le monde. C'est vrai, quelqu'un
Oui,
qui
même
fait
pour
répéter
l'entourage.
tout le temps. Et quelqu'un qui fait répéter, on finit par plus lui parler. Hein. C'est surtout les jeunes, et c'est ce qui arrive souvent. Oh, c'est pas la peine de lui parler, il va pas entendre, pas pire, prendre les autres dans son coin. Et ça, c'est encore pire.
Merci beaucoup, docteur
Je
Sastre,
vous
pour
en
votre
prie.
présence dans la Pause Santé et à bientôt tout le monde dans un prochain épisode. Vous venez d'écouter la Pause Santé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de la Pause Petit-Fils. la-pause-petit-fils.com.